a été interrompu par nos femmes préférées qui ont recommencé à étudier, Baruch HaShem. Donc, on revient dans notre étude donc, de Horot. Donc, on disait, on est toujours dans le chapitre 8 de Horot à Milchama, et le Rav Kook nous a donc expliqué que ça y est, Andafat HaKohar Shel HaGoyim, je suis donc à la page Tet Zain, troisième ligne. Troisième ligne, page Tet Zain, au milieu donc de, du chapitre 8. Andafat HaKohar Shel HaGoyim, Shkuyet Kos Atarela, Mukhachati Lavo. Donc la perte de puissance des goïms qui ne pensent qu'à envenimer les uns les autres, eh bien, doit arriver. Patach Hashem et Otsaro veyotzi et kli za'amo. Dieu a ouvert son trésor, voilà, et a sorti ses ustensiles de guerre. Im od titametz Europa וכול גויה להחזיק מעמד בציוויונה לא באמת ולא בצדקה את השם סליחה לא ידעו ואת דרכיו לא יחפצו ללכת בהם. Donc là, voilà, si tu te poses la question de qui il parle, là au moins il le dit clairement, on parle d'Europe, de l'Europe. OK? Pourquoi est-ce que le Rav Kook ne parle pas encore des États-Unis? Ben parce que ce n'est que après la Première Guerre mondiale que les États-Unis prennent une place prépondérante dans la civilisation occidentale. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont extrêmement protectionnistes et extrêmement centrés sur eux-mêmes. Ils viennent à peine de sortir de leur guerre de sécession, depuis une cinquantaine d'années, et donc ils sont jusque-là pas vraiment présents sur la scène. Voilà, ils ne se mêlent pas trop sur la scène européenne. Donc, à partir de la Première Guerre mondiale, ils vont prendre la place qu'on leur connaît. Mais donc, ça veut dire que là, maintenant, le Rav Kook ne peut pas encore leur parler d'eux. Et n'oublions pas une dernière chose. Eh bien, jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'Europe, ce n'est pas que les frontières de l'euro. C'est les empires coloniaux. Donc, ça veut dire que véritablement, l'Europe, c'est le monde. D'accord ? C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Europe est limitée dans la zone euro. Et donc, elle n'a plus aucun poids. Donc on voit bien que le Rav Kook avait raison. Ça veut dire ?
Ils commencent à perdre.
Ah, ils perdent complètement. L'Europe aujourd'hui, c'est quoi ? C'est Choum Dabar.
Et même, ils ont un retour de bâton parce que tous les coloniaux ont été
marqués. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est un retour de ce que tu veux. Alors, il est.
Non,
bien sûr. Matzav Zeh, alors je ne sais pas si c'est la première, hein, c'est pas la première guerre d'Algérie, mais.
Non, c'est...
Mais bien sûr, ça compte. Matzav Zeh, oui, mais.
Les Anglais avec l'Inde.
Oui, bien sûr. Les Anglais avec l'Inde, bien sûr.
Toute leur colonie.
Le Maroc et
l'Algérie.
Ouais, l'indépendance.
Oui, mais posons-nous les vraies questions, parce que là, on ne se pose pas les vraies questions. Est-ce que, si la France n'avait pas envahi l'Algérie à l'époque, est-ce que tu aurais eu le minag de la moustache? Parce que je te rappelle que la moustache était quand même l'apanage de la France du 19e siècle.
Moi, j'ai...
Ah, voilà, maintenant on se pose les vraies questions.
La première fois qu'on m'a enlevé là-bas, j'avais 14 ans. Et le coiffeur m'a dit, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai dit, je sais pas. Alors, on m'a dit, tu veux te faire un truc, si ça te fait pas, tu peux l'enlever.
Eh bien, tu vois, voilà. Eh bien, c'est l'influence française, la moustache et toutes ses dérivées. Mais c'est ça, c'est ça. Mais bien sûr. Mais Kitsour, il est évident qu'il y a eu une influence, mais bon, Baruch HaShem, on arrive à ce qu'il faut. Donc, Matzav Zeh ou Rig'i Berig'i Atolada. C'est important ce que dit ici le Rav Kook. Ce Matzav, cette situation où les Goyim étaient en haut, et avait tout ce mensonge qui était l'idéologie dominante, Zematsav Rig'i Berig'i Atolada. C'est pas éternel. C'est un instant parmi les instants des générations. Or a teshuva yofia be'erach ve'yashlich ish et elile kaspo ve'et elile za'avo ve'yashuva kol el tov Hashem. Tout Hachem, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Teshuvah, le rouar de la Teshuvah, va les va les prendre aussi. Et chacun va jeter, Elilé, Kaspov, Elilé, Zavo, c'est un pasouk. Ils vont jeter leurs croyances. Pourquoi ? Pour arriver, El Tuv Hashem. Est-ce que c'est quelque chose que l'on voit aujourd'hui ? Et la réponse est oui, fondamentalement oui. Ça veut dire que tout le monde devient Ohev Hashem. Mais on voit qu'il y a un véritable rejet des structures de l'époque, des idéologies de l'époque, et tout le monde est en recherche de quelque chose. Ils ne savent pas encore que ce qu'ils recherchent, c'est Tov Hashem. Mais c'est ça qu'ils recherchent.
C'est des gens qui avaient la Emouna.
Il y avait la Emouna, ils ont perdu la Emouna et ils la recherchent, mais ils ne cherchent pas la même. C'est la raison pour laquelle tu vas voir en Europe énormément de conversions à l'islam. Parce qu'ils ne veulent pas se détacher de la spiritualité, mais la spiritualité proposée par l'héritage chrétien ne leur parle pas. Ils vont chercher autre chose.
Et ils ne viennent pas chez nous parce qu'on...
Non, bien sûr qu'ils ne viennent pas chez nous.
Pas.
Mais pourquoi ils ne viennent pas chez nous ?
C'est tellement plus facile.
Alors d'abord, il y a une question de facilité, Zénachon.
Ils sont racistes, ils ne nous veulent pas.
Mais nous, on ne les veut pas.
Ici, dans le coin...
Mais non, mais tu plaisantes. En termes de chiffres, c'est une blague. Mais pourquoi ils ne viennent pas chez nous ? Et d'ailleurs, je ne parle pas en Israël. Je parle là-bas, chez les goïms. Mais non, pourquoi les goïms ne viennent pas voir ? Ben, parce qu'un goï en France, pourquoi tu veux qu'il se convertisse au judaïsme ? Le judaïsme est fermé, le judaïsme est dur à réaliser, et le judaïsme, en France, n'a pas une aura mondiale. Donc pourquoi est-ce que tu veux que je quitte quelque chose qui était grand pour arriver à quelque chose qui est petit ? Donc je vais voir l'islam. Alors si tu viens lui proposer autre chose, que tu viens lui proposer la grandeur...
Et en plus avec les Palestiniens, les pauvres, les malheureux, etc.
Non, mais ça c'est Stam. Non mais attendez, non, là je suis obligé de réagir. Mais là mon ami, les Palestiniens, et je le dis sur les ondes, je parle pas du mec qui habite à Ramallah. Le mec qui habite à Ramallah, sa cause lui est très importante. Mais soyons très clairs, en Europe, dans le monde arabe, tout le monde s'en fiche des Palestiniens. Donc c'est pas tellement pour les Palestiniens, c'est plus contre nous.
Ouais, c'est ça.
Ils s'en fichent des Palestiniens. Ils y connaissent rien, ils savent pas où c'est. Je t'ai déjà raconté mon histoire quand j'ai été prise à part, prise à mal dans un café. À côté de Porte de Clignancourt, où j'étais avec un autre guide venu d'Israël, et on a pris un café, lui et moi, un Orangina. Et les regards se sont tournés vers nous.
Ah,
eh oui, et surtout que l'autre avait des sandales avec des chaussettes. Ça ne tombe pas. Les sandales avec les chaussettes, ça, c'est Ofra, c'est Elie, c'est Bethel. Eh oui, ça ne trompe pas, tout le monde le sait.
Marie.
Autant la kippa, les gens ne savent pas ce que c'est, autant les sandales à chaussettes.
Hein?
Bien sûr. Et donc, y a des mecs qui ont commencé à... L'autre guide a parlé en arabe, donc ça les a calmés. Lui-même tunisien de son état. Et au bout de deux secondes de discussion, je leur ai dit, ok, Riyad, j'ai sorti de mon sac une carte du monde que j'avais prévue pour mes activités du Shabbat. Et j'ai dit, bon, c'est où la Palestine ? Vas-y, t'as le peuple palestinien, on fait la cause, machin, c'est où ? Et il m'a montré un truc qui était pas loin du Congo. C'est-à-dire, aucune chose... Ils s'en fichent.
Ouais, ils savent pas.
C'est juste que c'est contre nous. Ouais. C'est-à-dire, et peut-être qu'on donne pas le vrai message. Le but du jeu, il est très simple. Il est de lui réapprendre à lui comment être lui grand. Je veux pas qu'il devienne moi. Je veux qu'il redevienne lui-même. Le judaïsme... Le message qu'il a à donner à l'humanité n'est pas un message de prosélytisme et de conversion au judaïsme. C'est un message pour rattacher les nations en tant que nations à Kadosh Baruch Hu. On appelle ça les Bnei Noach aujourd'hui. C'est ce que fait le Rav Cherki et d'autres avec l'association Brit Olam. C'est le but du jeu, c'est de leur réapprendre qu'ils peuvent être en tant que goyim attachés à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Az. תיכחד התרבות האובית בכל יסודותיה, ספרותיה, תיאטריה וכל מכונותיה, וכל החוקים אשר בהבל והבל יסודם, וכל נימוסי החיים הרעים והחטאים כליל יחלופו. זה רפוק, toutes les structures occidentale s'effondre. Que ce soit la civilisation actuelle, les fondations de cette civilisation, la littérature, le théâtre, enfin, tout ce qui est en train de faire amener ces valeurs-là s'effondre. Les amis, le Rav Kook est évidemment un visionnaire de Foucault, de Derrida, de tous les philosophes qu'on appelle les déconstructionnistes, qui depuis les années 50 ont passé leur temps à déconstruire les structures traditionnelles et à dire que tout ça c'est à revoir, machin, et on est là-dedans. La volonté des mouvements LGBT, la volonté des minorités qui font la loi sur la majorité, machin, c'est la déconstruction des structures qu'il y avait à l'époque. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que le Rav Kook dit c'est bien, c'est les choses qui sont mises en place avec la déconstruction. Non, mais c'est, on comprend pourquoi ça vient.
Non, c'est comme le blé. Il pourrit d'abord, c'est ce qui est en train de se passer. Et puis après,
pour deux, c'est que Klipa a codémet la prix. Mais c'est l'heure. Dès qu'il y a quelque chose qui se met en place, il y a d'abord une structure qui est négative, et ensuite ça laisse place à quelque chose de très
grand. Pour notre gouvernement, ça pourrit bien là.
Le problème, c'est que ça peut durer. Le problème, c'est qu'à force de faire des compromis, c'est un état de compromis. C'est vraiment.
Quoi ? Quel compromis tu parles ? Qu'est-ce qui t'a choqué ?
Entre eux, dans l'État, il va y avoir que des compromis. C'est ce qui se passe. Maintenant, pour le budget, tout ça, c'est.
Mais ça, non ? Et ? C'est si grave que ça ?
Non.
C'est si grave que ça ?
Non, mais qui.
Excusez-moi. Pour l'instant, c'est si grave que ça ? Pour l'instant, il s'est passé quelque chose de grave.
De plus en plus d'arrogance.
On a fait rentrer les Palestiniens dans.
Est-ce que tu crois vraiment. Attends, temps mort. Non, mais attends, faisons un tout petit peu de géopolitique actuelle. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une histoire de budget que les Arabes en Israël relèvent la tête ? Tu crois que c'est une histoire uniquement de. Ils ont reçu un peu plus d'argent ?
Non, c'est que les autres baissent la tête.
Ah, donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient. Un développement économique. C'est très bien que la société arabe ait un développement économique. C'est bien, il faut ça. Il n'y a aucun intérêt à ce que la rue arabe elle soit pauvre. Aucun intérêt. Bah non. Tu dis, avec le compromis économique, il ne faut pas baisser la tête non plus. Alors, je vais te dire quelque chose.
Ils ne font que baisser la tête.
Alors, je pense que tu as une vision un petit peu trop tronquée de la réalité du terrain. Peut-être... parce que tu ne suis que les journaux, enfin les informations françaises, en français du moins, qui sont à tendance pas tellement pro Monsieur Bennett, et peut-être aussi parce que tu as une vision trop centrée juif religieux. J'aimerais te donner un exemple pour te, et je suis loin de dire que tout va bien, tout va pas bien, mais si on veut voir, à mon sens, où on en est par rapport à lever la tête ou baisser la tête, le curseur, il se trouve sur le mont du Temple.
Oui.
Tout, aujourd'hui, est sur le mont du Temple. Tout se passe là-bas. OK ?
Il y a la température du pays ?
Tout. J'allais même dire du monde. C'est au mont du Temple que tout se joue.
Oui. Est-ce qu'on en parle de ça ?
Non, on n'en parle pas. Maintenant, je veux te faire un constat. Je vais te faire un constat. Deux secondes, je veux te faire un constat. Oui. C'est très important.
Et on parle, je crois comprendre que si on ne s'engage pas aux promesses qu'on fait avec les Arabes décideraient éventuellement sur quel
gouvernement. D'abord, mais c'est pas. D'abord, attends. Alors ils feront des compromis, mais deux secondes, Slicha, mais c'est pas mal de commencer à être dans notre culture gouvernementale des gens honnêtes. C'est pas négatif que les gens respectent la parole donnée. Alors peut-être que la parole qu'ils ont donnée, elle n'était pas bonne. Ça, c'est un autre problème. Mais faut arrêter de mettre en exergue et de mettre en avant. De dire que c'est génial de faire des promesses avant et de ne pas tenir ses promesses.
Ben, c'est
pas bien.
C'est
mais non, au contraire.
Il y a des promesses.
Pour l'instant, on est d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que les gens lui reprochent énormément. Mais depuis que le gouvernement est mis en place, ils essayent de faire tenir leurs promesses chacun parce qu'ils veulent pas que ça tombe.
Ça,
ça voudrait dire que puisqu'on a promis pour pouvoir devenir Premier ministre, qu'on a promis, entre guillemets, des choses qui nous sont néfastes, il faut les tenir.
Dis-moi, est-ce que tu te rappelles,
parce qu'on a promis ça,
eh, je dis que je dis que Colmicrée les gouffos, que chaque cas doit être géo cas par cas, il y a des fois où tu peux pas machin, mais de manière générale, oui, je pense que garder la parole donnée, tenir sa parole, c'est bien dans le long terme, dans la conscience collective, et bichlal dans l'idéal, c'est bien de pas mentir. Je te rappelle que on a eu un précédent où il y a des gens qui nous ont fait une entourloupe, mais on leur a donné notre parole, et bien que halakhiquement, on n'était pas obligé de garder notre parole, on l'a gardée, et on le voit comme étant positivement. Je parle évidemment des Givonim, bien sûr. Les Givonim, à l'époque de Yehoshua, se sont déguisés pour venir prétendre qu'ils venaient de très très loin pour faire avec nous la paix et une alliance, alors qu'on n'avait pas le droit de faire une alliance avec des gens de Eretz Kenaan. Yehoshua a fait l'alliance avec eux, et après, lorsqu'il se rend compte de la supercherie, les Givonim sont attaqués, et ils demandent à Yehoshua de l'aide. Yehoshua n'est pas tenu de respecter son accord, parce que cet accord est caduque, ils lui ont menti. Donc, il aurait pu très bien les laisser se faire tuer, tant pis pour eux, et après venir les conquérir, ce que tu veux. Mais Yehoshua décide, eh bien, de tenir sa parole. Pourquoi ? Kiddush Hashem. Parce que sinon, tout le monde dira que les Juifs, ils ne respectent pas leur parole. C'est bien de respecter sa parole. Après, ça serait bien de donner une parole intelligente. Ça, c'est pas faux.
Il faut commencer par quoi ? Il faut poursuivre par quoi ? Alors...
Tu sais, quand on vient, quand j'arrive dans un mariage et qu'on me dit « Est-ce que vous voulez du poulet ou du bœuf ?» Je réponds toujours « L'ordre n'a pas d'importance. » Il faut commencer par quoi ? Je ne sais pas par quoi il faut commencer. Si, il faut commencer par être intelligent. Nahon, mais « En malasot » On a commencé par pas être intelligent. Ça, dans ma tente, c'est. Tu comprends? Bekitsour, tout ça pour dire que on est en train de détruire. Je te disais, le curseur, il est. D'accord. Je disais, le curseur, il est actuellement sur le monde du temple. Je voudrais simplement te dire, qu'est-ce qui a changé? Il y a 10, 20, 30 ans.
Ce qui me gêne dans votre raisonnement, c'est que c'est bien de suivre sa parole, d'accord, mais donc pour Ram, etc., et on leur a donné une parole, etc., mais que eux, pour arriver à cette place-là, ils ont trahi.
Ah, mais je suis d'accord avec toi! Mais on est tous d'accord là-dessus!
Sur une base qui est,
mais c'est évident! Je suis tout à fait d'accord avec toi! Je suis tout à fait d'accord avec toi, et t'en fais pas, les gens sont pas dupes. C'est-à-dire que là, s'ils vont réussir à faire tenir leur gouvernement 4 ans, et bien très bien, ils le feront durer 4 ans. Mais Enbaya, tu crois quoi? Tu crois que les prochaines élections, quand il promettra quelque chose, les gens le croiront? Non, ça d'air. Ok, donc Enbaya, je dis simplement que cette idée qu'on garde sa parole et qu'on la tient, c'est bien. Ça, maintenant, pour ce qui est du curseur, tu dis baisser la tête, lever la tête. Il y a 10, 20, 30 ans, un juif qui montait sur le mont du Temple, d'abord il était extrêmement minoritaire, et en plus, il était effectivement encadré par ce 4 mecs du WAF et par la police, et s'il faisait mine de faire un seul geste machin qui pourrait être associé à une tfila, il se faisait descendre et ouvrir un dossier judiciaire, casier judiciaire, ce que tu veux. Je veux simplement te dire, moi j'ai pas été sur le mont du Temple pendant ces fêtes, mais j'ai plein de gens dans ma communauté qui l'ont fait et qui m'ont raconté, à Sukkot, ils ont été. Alors, je te dis pas que c'est déjà le top, hein. Ils n'ont pas amené leur loulav et leur etrog sur le mont du Temple. Mais, sur le mont du Temple, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens ont fait toute la tfila là-bas. Alors, sans sidour. Mais les mecs, c'est des tueurs. Ils connaissent toute la tfila par cœur. Ils ont fait toute la tfila. Les mecs du WAC ne se sont pas approchés. Ils ne s'approchent plus. Et la police font en sorte de mettre ils font un point avec les gens qui montent en disant où est-ce que vous voulez être et quand. C'est plus la police qui nous dit vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. C'est les gens qui montent, et il y a plein d'associations qui font monter les gens, Bigdoucha ou Betahara, bien sûr, selon ceux qui permettent, et qui disent, voilà, c'est eux qui dictent à la police, on va être là, il y a quatre personnes qui doivent arriver, on va les attendre, ils vont revenir, ici on va être 25 minutes, ici on va être 10 minutes. C'est plus la même chose. Je ne te dis pas qu'on va garder cette tête haute, mais il faut la garder. Mais je dis pour l'instant, on a relevé la tête. Oui.
Il y en a un qui a interdit pour 3 mois, c'est quoi?
Pourquoi ils... Après, il y a des gens qui font des problèmes, c'est du perso. Hein?
Pourquoi maintenant ils acceptent ça, les Arabes, alors qu'avant nous?
Alors, après, il peut y avoir des questions politiques derrière, il peut y avoir des questions financières derrière. N'oublions pas que, encore une fois, les gens qui sont là-bas, les mecs du WAQF, c'est pas des idéologistes. Hein. C'est des mecs qui sont payés, tout simplement. Donc, si on leur dit de se taire et qu'ils ont un chèque, ils se taisent. Mais la question est de savoir, de manière plus profonde, pourquoi est-ce que le monde arabe pense que c'est plus intelligent de se taire? Et pourquoi est-ce que de plus en plus de pays arabes veulent signer les accords d'Abraham? Et pourquoi est-ce que de plus en plus de pays arabes veulent normaliser leur relation avec Israël? Au niveau macro, on ne baisse pas la tête. Ce n'est pas vrai. Alors, peut-être que ici et là, on a fait des promesses arabes et elles sont mauvaises, mais maintenant on les tient, on a l'air de baisser la tête. Mais si tu regardes de manière internationale, de manière grand, Israël n'est pas du tout en train de baisser la tête devant les Arabes.
C'est même un miracle qu'il soit encore debout avec tous ces Arabes autour.
Bien évidemment. Bekitsour, Rabotai, Venisgav Hashem Levado Bayom Ahou. Ah, une fois qu'on aura donc détruit les mauvaises structures et que auront poussé des meilleurs. Venisgav Hashem Levado Bayom Ahou. Ha'ereg haruchani ve'ama'asi asher betzivyono ahou lo haya yachol la'atzor im kol tiferet chokhmato be'ad shefech adamim arabim u'be'ad chorbano shel ha'olam betzura ayuma kazot hare hu mukhach al atzmo shehu pasul mi'ikaro. Voilà ce que je disais au tout début du cours, qu'ils avaient une belle théologie, les chrétiens, d'amour et de Dieu et machin. Vu que tout était basé sur du vent, ils n'ont pas pu empêcher ces fleuves de sang amenés par les guerres. Donc c'est la preuve que toute leur idéologie était mensongère.
Ils ont eux-mêmes utilisé ça.
Mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ou pas sous le mi-caro. Zorou Reshaim Mirachem Taou Mi Beten Dovere Kazav Mi Reshit Yesodo Vechol Maalacho Kulo Eino Kiim Atzat Sheker Venochle Reshaim Mesubachim Shehem Kshurim Imani. Shel Binyan Aleumim Shel Zmanenu. Toutes ces violences, en fait, vont très bien avec l'identité profonde de ces peuples. Et le nationalisme du 19e siècle était poussé par la volonté de destruction et de conquête les uns des autres. Quand on regarde toutes les guerres...
Avec l'Allemagne, l'Angleterre...
Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Exactement. C'est-à-dire... Shokhache Hashem Bechil Yotam Venosim et Shemo Al Sefatam Befiem Ubilshonam. Tous ces gens-là qui parlent de God.
Des grandes gueules.
Des grandes gueules, hein, qui parlent de God, de Dieu. Et le... Mais ils parlent de ça n'importe comment. Et ils disent n'importe quoi.
Aucun respect.
Aucun respect. Alken, Kharav, Kherev, Sikha, Kherav te Kherav, Kol atarbut ha'ovit, ve'al meso'otea, yitkonen binyan ha'olam be'emet u'beda'at Hashem. Voilà, le but de la reconstruction après les guerres, c'est un bâtiment qui repose sur Da'at Hashem. C'est ce que nous sommes en train de faire. On ne le fait pas assez, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Ve'aya be'acharit ha'yamim nachon yehar bet Hashem be'rosh harim ve'nasa migevaot ve'naharu elav kol agoyim. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout se tourne aujourd'hui autour du Har Bayit. La question, elle est là. Har bet Hashem. Tefila l'ichol ha'amim.
Ça veut dire que le monde entier
a les yeux rivés vers cet endroit.
Le monde entier doit participer à ça.
Tout à fait. Chazak ou baruch.